Ce matin, nous allons redécouvrir ou découvrir la communion. Okay? La communion. Chez les chrétiens, la communion, c'est le fait de se rappeler le sacrifice de Jésus à la croix en prenant le pain et le vin qui symbolisent le corps et le sang de Jésus. Et je veux vous démontrer que le fait de partager un repas, c'est la stratégie de Dieu pour être en relation, pour être en communion avec nous, et qu'on devrait aussi s'inspirer de cette stratégie-là pour être en communion les uns avec les autres. L'idée du repas revient sans cesse à travers la Bible. Et avouez-le, la plupart de nos meilleurs moments se déroulent autour d'un repas. Hein? Avouez, on a des beaux souvenirs qui se déroulent autour d'un repas, et à chaque fois qu'il y a des festivités, ça comprend un repas. En tout cas, si ça comprend pas de repas, là, c'est un petit peu décevant. Tu peux peut-être te rappeler le bon plat gastronomique que tu as dégusté au restaurant à ton anniversaire de mariage, à une certaine année. Le beau gâteau de fête que ta mère a décoré pour toi à un moment donné quand tu avais 9 ans. Tu t'en rappelles encore dans ta tête. Le beau barbecue entre amis sur la plage à l'été 1990. Je suis sûre que vous avez des beaux souvenirs là, qui s'en viennent. Le plat traditionnel que tu as mangé avec des villageois dans un village quand tu étais en voyage. Plusieurs de nos souvenirs sont construits autour de la nourriture, du fait de partager un bon repas avec les gens qu'on aime. Avouez? Avouez, hein, quand on y réfléchit. Malheureusement pour moi, un de mes souvenirs de voyage les plus marquants, c'est le repas que je n'ai pas mangé, que je n'ai jamais mangé pendant notre voyage de noces. OK, je vous explique. Julien et moi, on avait loué un petit scooter pour se promener en Italie. On a eu la chance d'aller en Italie pour notre voyage de noces. Et pendant une balade, Julien s'est fait piquer par un insecte. OK, on n'a jamais su c'était quoi l'insecte, une quelconque bestiole. Et Julien n'est pas du genre à se plaindre ni à prendre des médicaments quand il a mal à la tête. Il va pas très rarement prendre des médicaments, mais ça a tellement enflé, je ne sais pas s'il était allergique ou quel genre de bestiole c'était, il a dû aller à l'hôpital pour en recevoir une piqûre de cortisone, OK, quand même. Et à son retour d'hôpital, il semblait assez bien aller pour, en tout cas du moins, pour prendre un bon repas. Donc, on est allé au restaurant près de notre hôtel et on a commandé, en fait, chacun une bonne pizza italienne. Tu sais, pas les pizzas du Mike's, là, une bonne pizza italienne. Et là, tout d'un coup, dès qu'on reçoit nos pizzas, Julien se sent pas bien, tout d'un coup, là. Il commence il va être sur le point d'être malade et il est sur le point même de s'évanouir. Donc, un peu en panique, il commence à tituber quasiment et il se rend jusqu'à l'hôtel qui était à quelques pas du restaurant. Et moi, je reste ici toute seule avec mes deux pizzas devant moi, comme ça, un peu dépourvue et, sachant pas quoi faire vraiment dans l'énervement et petit détail, je parle pas italien, donc un petit peu malaisant tout ça. Je suis juste allée payer la facture pour aller rejoindre Julien le plus rapidement possible en fait. Le seul regret que j'ai dans ma vie, c'est ces deux pizzas italiennes que je n'ai jamais mangées. Et parfois, elles me hantent la nuit et elles me disent « Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas emportés avec toi? Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas emmenés à emporter? » Ah, c'est la question qui me hante depuis plusieurs années déjà. Merci, ça me fait vraiment du bien d'en parler ce matin. Donc, merci pour ce moment de thérapeutique. Mais à part pour mes pizzas, les plus beaux moments de notre vie se passent généralement autour d'un repas. Okay? Parce que partager un repas, c'est plus que manger. Des études ont montré que les enfants qui prennent souvent leur repas en famille réussissent mieux à l'école, sont moins sujets à la dépression, aux pensées suicidaires, à la consommation de drogue et aux troubles alimentaires. Ça va loin, c'est fou! Et saviez-vous aussi que le nouveau guide alimentaire canadien recommandait qu'on mange en communauté? Ils vont dire ceci, il y a une rubrique complète à ce sujet. Le guide va dire « Prendre les repas en bonne compagnie fait partie d'une saine alimentation. » Quand même. Partager des aliments sains en compagnie de proches, d'amis, de voisins ou de collègues de travail est une excellente façon de tisser ou de renforcer les liens tout en rendant la vie agréable. Partager un repas, c'est plus que manger, c'est communier. Et cet acte social fait partie de l'être humain, OK? C'est quelque chose d'inné, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu qui est un Dieu de communion, un Dieu de relation. Il y a dans la communion, ou le repas du Seigneur, comme on appelle aussi, quelque chose qui symbolise le sacrifice de Jésus. Mais il y a encore plus quand la Bible parle du repas. C'est ce que nous allons découvrir ensemble ce matin. Brièvement, je vais faire un survol de quelques éléments clés sur la communion dans l'Ancien Testament, pour ensuite aller dans le Nouveau Testament et voir comment Jésus utilise l'idée du repas pour être en communion avec les autres. Et finalement, je veux nous inviter à utiliser le modèle de Jésus dans nos propres vies. C'est un bon programme? C'est bon? On va prier ensemble avant de plonger dans la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes à ton écoute. Nous voulons ouvrir nos bras, ouvrir nos cœurs, ouvrir notre esprit pour que tu puisses parler à chacun de nous, Seigneur, ce matin. Viens nous apprendre un peu plus de toi, Seigneur. Tu nous accueilles à ta table ce matin et on veut s'approcher de toi, Seigneur. Tu es tellement un grand Dieu, mais si proche à la fois. Alors, on veut s'approcher un peu plus de toi ce matin. Viens par ton esprit, Seigneur, répondre à nos besoins ce matin. Mangez avec nous. On veut être rassasiés ce matin en ressortant d'ici. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. La communion dans l'Ancien Testament, c'est partager un repas avec Dieu, on pourrait dire. Le repas, c'est une des méthodes de Dieu pour être en relation, en communion avec nous. Et dans la Genèse, une des premières choses que Dieu dit à Adam et Ève, c'est manger. Amen. Quel commandement agréable à appliquer dans nos vies. Yes. Genèse 1, 29, « Je vous donne tout herbe et graine sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. » En passant, c'est de la nourriture végétarienne. Clin d'œil pour les végétariens, mais la viande s'en vient, ce sera pas bien long. Vous allez voir, les carnivores aussi vont être rassasiés ce matin. En Genèse 2, 16, 17, Dieu va dire aussi, « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. » Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Avant qu'Adam et Ève désobéissent à Dieu, ils étaient en parfaite communion les uns avec les autres, l'homme et la femme ensemble, et avec Dieu évidemment. Est-ce que tu as déjà réalisé que c'est en mangeant quelque chose, en mangeant un aliment, que la communion a été rompue? Le geste de manger le fruit interdit représente beaucoup plus que le fait de manger un aliment, évidemment. Ça représente la communion avec Dieu qu'ils ont choisi de rejeter pour décider eux-mêmes de ce qui était bien et de ce qui était mal. Mais Dieu nous a créés pour être en relation, en communion avec nous. Alors, il a trouvé un autre moyen, même après que l'être humain ait choisi de rejeter Dieu. Il est venu habiter parmi le peuple juif en établissant sa présence dans ce qu'on appelle la tente de la rencontre. Parce que nous avons un Dieu de communion qui veut venir à notre rencontre. Dieu a transmis aussi des instructions au peuple pour instaurer un système de différents sacrifices d'animaux ou d'aliments pour différentes raisons. Donc, il ferait ça pour différentes raisons devant la tente de la rencontre où Dieu habitait. Il y a par exemple le sacrifice d'expiation où symboliquement les fautes commises par quelqu'un étaient transmises à l'animal. Il y a aussi un autre qui s'appelle le sacrifice de communion qui était offert devant la tente de la rencontre. Lévitique 7, 11 à 15. Voici la loi du sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un a l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice de communion des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande. La viande du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour où il est offert et on n'en laissera rien jusqu'au matin. Okay, il y a du pain, il y a de la viande grillée, il y a des gens qui mangent jusqu'au matin. Okay, en gros, ça ressemble drôlement à un barbecue. Okay? C'est vrai, le sacrifice de communion était un repas communautaire qui était pris en présence de Dieu pour lui rendre hommage. Des fois, on voit ça tout mystique, mais sur le fait, concrètement, c'est de la viande qui grillait sur le feu pour être en communion avec Dieu et aussi en communion les uns avec les autres. D'un couvert à l'autre de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous voyons que Dieu a toujours voulu être en communion avec l'être humain. Et ça se fait souvent par le moyen d'un repas. Jésus a dit ceci en Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu veut manger avec toi. Alors, il frappe à ta porte. Il frappe à ta porte ce matin. Quand on est déménagé dans la région de Charlevoix, ça nous a pris quelques mois pour nous habituer à un phénomène typiquement charlevoisien. Nous avons remarqué, Julien et moi, qu'ici, les gens rentrent dans les maisons sans qu'on vienne leur ouvrir la porte. Okay? Je sais pas s'il y en a qui viennent de Montréal, qui ont vu la même chose, perçu la même chose. À Montréal, tu attends que la personne vienne t'ouvrir, mais dans Charlevoix, tu cognes un petit coup et tu rentres. Okay? C'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, on le sait, quand on va chez un vrai Charlevoisien, on cogne à sa porte, on sait que personne va venir nous chercher, alors on tend l'oreille, on attend le « ouais, c'est bon, vous pouvez rentrer », et on rentre. On attend quand même le cri, on n'est pas encore totalement habitué. Mais Dieu, il n'est pas Charlevoisien, okay? Il se tient à ta porte, il frappe, mais il attend que tu viennes lui ouvrir pour l'inviter à souper avec toi. Dieu est toujours présent. Dieu est toujours présent, mais il ne s'impose jamais. Il ne s'impose jamais. Tu as accès de Dieu autant que tu veux lui faire de place dans ta vie. C'est nous qui les limitons, en fait. À celui qui sent que Dieu est loin de toi, détrompe-toi, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Il est juste à côté, l'autre côté de la porte, mais il attend que tu viennes lui ouvrir. Peut-être que tu dois lui ouvrir la porte pour la première fois parce que tu n'as jamais fait de place à Dieu dans ta vie. Ou peut-être pour la centième fois, pour passer encore plus de temps dans sa présence, il va falloir ouvrir la porte plusieurs fois dans notre vie par la prière, la lecture de la parole, la louange. Que ce soit pour la première fois ou la millième fois, Dieu est à ta porte et il attend que tu manges avec lui pour que tu sois en communion avec lui. Ce matin, ne résiste pas à son amour, à sa présence qui comble, qui libère, qui guérit et qui nourrit véritablement ton âme et ton esprit. Amen. La communion dans l'Ancien Testament, c'est partager un repas avec Dieu le Père. La communion dans le Nouveau Testament, c'est partager un repas avec Dieu le Fils, avec Jésus, Dieu qui s'est fait homme. Et pour Jésus, la communion, c'est comme un peu deux choses. Premièrement, c'est un sacrement. En partageant son dernier repas avec les disciples, avant sa mort, Jésus leur enseigne un sacrement, un rite, une commémoration à reproduire par la suite quand il va être parti. Assis à la table pendant le repas, Jésus prend du pain et leur dit « Ceci est mon corps offert pour vous ». Il va prendre aussi une coupe de vin pour symboliser son sang versé à la croix. Mais ce sacrement ne sort pas de nulle part. Okay? La Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. En d'autres termes, tout ce que je viens de vous décrire, ce qui a trait au sacrifice, c'était des indices de quelque chose de meilleur à venir. En parlant de la coupe de vin, Jésus a dit « Ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance. » La Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, ce n'est plus un repas pris devant la tente de la rencontre, c'est encore meilleur. C'est un repas à la table de Jésus. Un repas avec Dieu lui-même. Et ça m'a frappé cette semaine, je me suis dit, les gens, là, ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient en train de manger côte à côte avec Dieu quand ils mangeaient avec Jésus. La Nouvelle Alliance, ce n'est plus un animal qu'on doit sacrifier encore et encore, mais c'est Jésus, mort volontairement pour nous, en sacrifice pour toutes nos fautes, une fois pour toutes. Tout est accompli. En prenant le vin qui représente la Nouvelle Alliance, nous annonçons aussi qu'un jour, toutes choses seront renouvelées complètement. Parce que vous aviez bien compris que notre monde n'est pas encore très, très joli. Nous annonçons le royaume de Dieu à venir. Un royaume sans mort, sans souffrance, sans mal. Jésus, donc, nous apporte quelque chose de meilleur par la Nouvelle Alliance, mais la constante, c'est que Dieu veut être en communion avec toi. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples dans Luc 22, 14. Quand l'heure fut venue, c'est le repas, le dernier repas que Jésus prend, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Parce qu'il sait qu'après, il va retourner au ciel, il ne pourra plus partager ces moments-là avec ses disciples. Jésus désirait vivement manger avec ses disciples. Jésus désirait vivement manger avec ses disciples et c'est son désir aussi ce matin, de manger avec toi. Jésus désire manger un repas qui symbolise son sacrifice pour nous réconcilier avec Dieu parce qu'il a payé lui-même le prix pour nos fautes par son sacrifice à la croix. Le repas du Seigneur te permet d'être en communion avec Dieu, d'être assis à la même table du Dieu créateur de l'univers. Quel privilège! Je suis invitée ce matin à la table du roi, à la table du Dieu de l'univers. Et avant de prendre la communion, la Bible nous dit de s'examiner soi-même avant de manger le repas du Seigneur. C'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, comme un rituel sans réfléchir, mais comme j'ai dit au début, prendre un repas, c'est plus que manger un aliment, c'est s'associer à la personne et à son message. C'est croire en Jésus et être en accord avec Jésus. Donc, nous allons prendre la communion, insérée à travers ce message. On va poursuivre par la suite, mais on va prendre la communion. Julien, tu peux venir distribuer le pain et le vin. C'est une belle occasion de prendre la communion ensemble, alors qu'on en parle évidemment. On ne peut pas passer à côté. Puis, je vais en prendre un tout de suite, comme ça, je vais vous montrer la logistique de la chose. Yes. Vous avez votre petit plastique, premier petit plastique qui ouvre pour le pain et le plus grand pour le vin. Vous pouvez déjà prendre le pain, vous allez être prêt, tout ouvrir vos petites affaires si vous voulez. Voilà. Merci Julien. Nous allons lire un texte dans Matthieu 26 à 28 ensemble. Et Jésus est avec nous, on est à sa table avec lui. On est ensemble, en communion avec lui. On mange avec lui, avec Jésus. Matthieu 26 à 28. Je vais juste attendre que tout le monde prenne le pain. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Mangez ceci, prenez, mangez ceci est mon corps. » Mangeons ensemble. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versée pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Buvons ensemble. Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Merci, Jésus, de nous accueillir. Merci de vouloir manger avec nous, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu si grand, extraordinaire, qui est venu, Seigneur, jusqu'à nous pour manger, pour qu'on puisse manger à ta table. Seigneur, on est tellement reconnaissant du sacrifice que tu as fait, Seigneur. Que tu as tout accompli, Seigneur. Tout accompli la loi, Seigneur, qui était dans l'Ancien Testament. Tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Et maintenant, nous sommes rachetés et nous pouvons être en communion parfaite avec ton Père, Seigneur. Sois glorifié pour ton sacrifice. Amen. 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 Comme j'ai dit plus tôt, pour Jésus, partager un repas, c'est deux choses. Premièrement, c'est ce qu'on vient de faire, c'est un sacrement. Mais aussi, c'est une stratégie. C'est une stratégie, une méthode de Jésus pour annoncer son message. C'est partager. Sa méthode, en fait, sa stratégie, c'est partager un repas avec les gens. Jésus a nourri les foules. Il mange avec ses disciples. Il utilise aussi l'image du repas dans plusieurs de ses paraboles, vous remarquerez. Il est invité partout à manger là où il va. Il est invité, évidemment. Son premier miracle aussi, c'est de changer l'eau en vin dans un mariage. Quand même. La stratégie de Jésus pour communier avec les gens, c'est de partager un repas. Et c'était vraiment connu que Jésus mangeait avec les gens parce qu'il avait la réputation d'être un glouton et un buveur. Okay? C'est pas moi qui le dis, c'est Matthieu 11, 19. Un glouton et un buveur. Et cette semaine, j'ai vu apparaître, on fait des rénovations, c'est peut-être pour ça, mais j'ai vu apparaître une petite souris dans ma maison. Ouais, mais elle était vraiment mignonne. Ça m'a pas trop effrayée, au moins. J'aurais pu crier, mais non. Elle était plus loin, tu sais, c'était pas comme dans mes jambes. Mais j'ai vu une petite souris. Donc, on a installé un piège qui tue pas la souris parce que j'aime les animaux. Végétarienne, ouais. Il tue pas, mais il marche pas non plus. Ben, c'est ce qu'on se rend compte. Bref. Donc, en tout cas, on a installé notre piège et, comme je dis, il y a comme un petit compartiment pour accueillir la souris et aussi un compartiment pour mettre de la nourriture à l'intérieur. Donc, on a placé un petit bout de fromage à l'intérieur et tout, et on est parti pour la soirée, Julien et moi. Et à notre retour, le piège était comme vraiment déplacé à 1 mètre environ de distance. Il n'y avait plus de fromage, mais il n'y avait pas de souris non plus. Fait que ça n'a pas vraiment marché. Mais là, on est comme, hey, mais ça se peut pas que c'est autant bougé, tu sais, que ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Julien et moi, on s'est tous les deux regardés en même temps et on s'est revirés vers notre chien. Boris a mangé le fromage et la souris. OK? Parce que Boris fait essentiellement deux choses dans la vie, il dort et il mange. Ça ressemble un peu à ça. Donc, il est allé, je sais pas comment il a fait, j'aurais voulu avoir une caméra pour le filmer. Mais sur une note plus sérieuse, jamais on n'aurait pu lire un verset comme ça, comme quoi Jésus est un glouton et un buveur, si Jésus n'avait pas été autant reconnu pour prendre le temps de manger avec les gens. Et en plus aussi, il ne mangeait pas seulement avec ses disciples. Voici la suite du verset. C'est un glouton, on dit c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Dans Luc 15, 1-2, on lit aussi, tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Ils aimaient ça être en sa présence. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Imaginez la scène, OK? Les spécialistes de la loi, c'est ceux qui connaissent l'Ancien Testament parfaitement et qui suivent les instructions à la lettre. Et ils voient Jésus qui renverse tout ce qu'ils connaissent par la nouvelle alliance. Pour les spécialistes de la loi, là, tu pouvais pas manger avec des gens rituellement impurs. Pour eux, un pécheur, c'était un juif qui ne suivait pas la loi. Alors, c'était impossible de considérer manger avec eux. Mais Jésus le faisait. Jésus mangeait aussi avec les collecteurs d'impôts, détestés par la société juive, parce qu'ils travaillaient pour l'Empire romain. OK? Et personne n'aime vraiment payer des impôts aussi, là, by the way. Même à cette époque-là, c'était pas de tout cœur. Les collecteurs d'impôts étaient perçus comme ceux qui trahissent leur nation juive pour l'Empire. En plus, ils étaient connus même pour frauder en faisant payer un peu plus aux gens pour pouvoir se faire plus de profit. Donc, vraiment une mauvaise réputation. Mais Jésus mangeait avec eux. Il était reconnu pour manger avec les gens, pour manger avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Sa stratégie, sa méthode pour annoncer le royaume de Dieu, c'est manger avec les gens, avec des pauvres, avec des riches, avec des personnes instruites, avec des personnes moins instruites, avec des gens de d'autres cultures, des gens différents de lui. Jésus mangeait avec ceux qui avait envie d'être avec lui et de l'écouter. Nous sommes appelés à prendre exemple sur la stratégie de Jésus pour annoncer le message de l'Évangile, pour témoigner de Jésus et de ce qu'il fait dans nos vies. Il faut qu'on s'inspire de ça. La communion pour nous aujourd'hui, c'est partager un repas avec les autres. C'est mon dernier point ce matin. La communion aujourd'hui peut se faire en partageant le repas du Seigneur, premièrement avec l'Église, comme on vient de le faire pour se remémorer le sacrifice de Jésus. Okay, le repas du Seigneur permet à l'Église d'être en communion, oui, avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres, avec la communauté. Le rassemblement des chrétiens, c'est pas une option, c'est le plan de Dieu pour que nous soyons en communion. Mais Jésus nous appelle aussi non seulement à manger avec les disciples comme lui, mais aussi avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, avec ceux qui ne viennent pas à l'Église. Pour nous, aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire. Et je veux m'adresser aux chrétiens, OK, à ceux qui ont placé leur foi en Jésus. C'est vraiment important de comprendre ce point-là. L'Église, ce n'est pas une question de lieu. L'Église, c'est une question d'identité. L'Église, ce n'est pas un endroit où l'on va, c'est qui nous sommes. Nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église, où que nous soyons. La Bible dit dans Apocalypse 1,6 que Jésus a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des prêtres pour Dieu, son Père. Romains 12,1 va dire, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et on a vu avec Pasteur Julien aussi que la louange, quand on venait ici à l'église, c'est pour apporter un culte à Dieu. Nous sommes des prêtres qui rendent un culte à Dieu. Nous sommes des sacrifices vivants offerts pour lui. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait justement des sacrifices, des cultes et tout. Nous sommes prêtres et nous sommes sacrifices vivants. C'est ton identité. Tu ne vas pas à l'église, tu es l'église. Tu es un prêtre, tu es un sacrifice vivant. Qu'est-ce que ça change de savoir ça? De savoir que l'église, c'est pas une question de lieu, c'est une question d'identité? Comprendre ce principe fondamental de la vie chrétienne t'empêche de compartimentaliser ta vie. OK? Avec le dimanche matin d'un côté, le dimanche matin pour aller à l'église et tout le reste de la semaine. Non, tu es l'église 100% du temps. Dans tes relations, dans ton cercle d'influence, à ton travail, dans ta famille, pendant tes vacances, au lac, au ski, en Alaska, sur la lune. OK? Tu es l'église. Tu es l'église. Jésus ne compartimentalisait pas sa vie, OK? Il était Dieu en tout temps. C'est ce qui lui permettait de pouvoir annoncer le royaume autant à la synagogue qu'autant quand il allait manger avec les gens autour de lui. Nous sommes appelés à partager un repas avec ceux qui ne font pas partie de l'Église, comme Jésus faisait à l'époque, alors qu'il mangeait avec ceux qui ne suivaient pas la loi, avec ceux qui étaient même des traîtres pour la nation juive. Et si, avant d'inviter quelqu'un à venir à l'église, tu allais plutôt manger avec cette personne pour être l'église auprès d'elle? Nous devons apprendre à revenir à la simplicité de la méthode de Jésus. Prendre un repas avec les gens. Prendre un repas avec les gens. C'est tellement contre-culturel en ce moment de connaître nos voisins. C'est peut-être moins pire ici en région, effectivement, mais quand même. Un repas, c'est plus que manger de la nourriture. On l'a dit, c'est communier avec les gens. C'est prendre le temps d'écouter, de comprendre, de rire, de manger des bons aliments, de discuter ensemble. C'est pour ça que c'est autant important. Notre société est individualiste et on tient à notre confort, on tient à notre temps aussi. Donc, c'est plus inconfortable peut-être de manger avec ton voisin ou ta collègue au début pour la première fois quand tu la connais pas. Mais c'est la méthode de Jésus. C'est la méthode que Jésus utilisait. Et en plus, c'est la grâce qu'il nous a fait à nous-mêmes en nous invitant à sa table. Manger avec les gens et bâtir des relations, c'est ce dont nous avons besoin pour annoncer l'Évangile aux Québécois. Les Québécois qui ne connaissent pas Jésus ont besoin d'être en relation avec les chrétiens. Ils ont besoin de se sentir compris, aimés, écoutés. Ils ont plus besoin d'une relation que d'un prospectus. Okay, c'est une méthode qui a été utilisée par le passé par l'Église évangélique pour expliquer la foi et le salut en Jésus. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas parler à travers un prospectus, pas du tout. Dieu peut faire n'importe quoi. Il parle à travers sa parole, clairement. Mais le point, c'est de réfléchir à la meilleure stratégie possible pour annoncer l'Évangile et celle aussi qui se rapproche le plus de qui Jésus était. C'est-à-dire partager un repas avec les gens, bâtir une relation avec eux. C'est plus coûteux, mais c'est le cœur de Dieu. En marketing, okay, selon les statistiques, le taux de réponse de la distribution de prospectus varie entre 1 pour 5 000 et 1 %. Okay? Et ceux qui promettent les meilleurs taux à 1 %, c'est les compagnies d'impression de prospectus. Okay? C'est pas une blague. Mais pourquoi est-ce que certaines entreprises utilisent ce genre de méthode aujourd'hui? Ben parce que ça coûte pas cher. C'est pas mal le seul avantage. On diffuse en masse un message, mais ça coûte pas cher, mais en même temps, il y a pas beaucoup de résultats. Donner un prospectus, ça coûte moins cher que de prendre du temps pour partager un repas avec cette personne. Et si tu partageais un repas ou plusieurs repas avec quelqu'un avant d'essayer de l'inviter ou après l'avoir invité à l'église, de lui donner un prospectus, que tu prenais le temps de bâtir une relation de confiance, d'amour, de compassion, comme Jésus faisait. Ce dont les Québécois ont vraiment besoin, c'est d'être en relation avec toi, pour que tu leur transmettes l'amour de Jésus. Et en partageant un repas avec toi, ils ont une parcelle de qui était Jésus par son esprit, parce que son esprit habite en toi. Et si tu voyais les repas comme une opportunité de communier avec les autres, d'être l'Église finalement, auprès des gens qui ne connaissent pas Jésus. À l'image de Jésus, je veux t'inviter à prendre le temps de manger avec les gens. Ça paraît pas compliqué, hein? Ça paraît pas compliqué. Faut juste le faire, faut juste être intentionnel. Et je vais laisser le guide alimentaire canadien nous donner des idées pour manger en communauté. On va finir sur cette note. Mais c'est des bonnes idées pour mettre en application, pour mettre en pratique. Vous pourriez souper avec des colocataires, un voisin, des membres de la famille, planifier un déjeuner avec des amis, participer aux fêtes communautaires. Ben oui, les fêtes entre voisins, faisons-en. Dîner avec un collègue au travail ou à l'école. Organiser une série de soupers avec vos amis où chacun à tour de rôle devient l'autre. Planifier un souper hebdomadaire avec des membres de la famille élargie ou des amis, etc., etc. Qui est toutes des façons d'appliquer ceci. Juste prendre le temps de manger avec les gens. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Et ce matin, c'est pas moi qui fais une invitation. En fait, je veux vous encourager à vous-même faire des invitations. OK? Deux invitations que je t'encourage à faire ce matin. Je t'encourage premièrement à inviter Jésus à ta table. OK, ça, je ne peux pas le faire à ta place. Inviter Jésus à ta table. Parce qu'il est à la porte de ton cœur et qu'il frappe. Mais il attend que tu lui ouvres la porte et que tu l'invites à l'intérieur pour manger avec toi. Que ce soit pour la première fois ou la centième fois, invite ou réinvite Jésus à ta table pour prendre du temps avec lui dans sa présence, pour nourrir ton âme et ton esprit. Si c'est ton désir ce matin, peux-tu juste lever la main d'accueillir Jésus à ta table?